Après avoir découvert ce que représente le point de vue de l'ousia, la substance distincte de la qualité, de la quantité, de la relation, je ne reviens pas sur cette distinction, mais elle est très importante parce qu'elle nous permet de mieux comprendre comment l'être, le toon, ce qui est, ne peut pas se ramener à la forme. Je crois que c'est ça le gros problème. Ça a été le gros problème pour Aristote, c'est intéressant, parce que c'est le gros problème devant lequel nous nous trouvons toujours encore aujourd'hui. C'est le problème que Heidegger a très très bien senti. Il a très bien senti que nous ne pouvions pas ramener l'être à une forme, que l'être était autre chose. Et on comprend très bien que dans la perspective de la phénoménologie husserlienne, où on commence sur le point de vue de l'idée, et où on essaie de décrire ce que représente le point de vue de l'idée, le gros problème, c'est le dépassement de l'idée. Au fond, c'est un problème analogue à celui de Platon. Ce n'est pas le même du tout, puisque d'un côté, c'était une supra-objectivité, et de l'autre côté, c'est quand même une subjectivité, mais c'est quand même deux problèmes très analogues. Est-ce que la forme peut nous donner la connaissance de l'être ? Si je saisis la forme en premier lieu, alors la forme, c'est aussi bien morphé que eidos. C'est eidos aussi bien la manière de Platon que la forme a priori de Kant ou la forme idée de Husserl. C'est toujours la forme, ce qui détermine, la forme qui est le principe de détermination. Quoique ça, c'est très important de bien voir que ce problème est quand même le problème principal devant lequel Aristote s'est trouvé, devant lequel nous nous trouvons. Pourquoi une quantité aujourd'hui refuse le point de vue de la philosophie première, ou ont une peine énorme d'atteindre ce que c'est que la philosophie première? C'est qu'ils sont non seulement conditionnés par la forme, nous sommes tous conditionnés par la forme. Notre intelligence est conditionnée par la forme, parce que la première chose que nous saisissons, ce sont les qualités. Tous, nous saisissons les qualités. Ou nous saisissons la quantité et les qualités. Nous essayons de voir les liens entre les deux. Notre pensée est liée à cela. Vous voyez, quand saint Thomas dit cette petite phrase si significative, que l'appréhension saisit tout, per modum quiditatis, par mode de quidité. Saint Thomas veut dire que notre intelligence est conditionnée par la forme. Je traduis dans un langage moderne. Ça veut dire que notre intelligence est conditionnée par la forme. La première chose que notre intelligence saisit, c'est toujours la forme. Que vous l'appelez quidité, que vous l'appelez forme, que vous l'appelez eidos, que vous l'appelez idée, c'est toujours la forme. Et notre intelligence est conditionnée par cela. Alors, toute la question, c'est de savoir si l'intelligence est déterminée fondamentalement par la forme. Vous voyez, au fond, nous revenons à ce problème critique. Je le souligne parce que c'est bon de le reprendre toujours. Nous revenons à ce problème critique de la question de l'appréhension et du point de vue du jugement. Alors, la question peut se poser de cette manière-là. Est-ce que le jugement permet le dépassement de la quidité, c'est-à-dire le dépassement des formes, c'est-à-dire des catégories, ou est-ce qu'au contraire, le jugement n'est pas autre chose que l'addition, la relation entre les formes? C'est ça le gros problème. Fondamentalement, toujours, on aboutit à cela. Que vous l'exprimiez d'une manière ou d'une autre, ça n'a pas d'importance, mais c'est toujours ce problème-là. C'est quand même très curieux de voir que c'est le problème devant lequel Aristote s'est trouvé face à Platon. C'est normal. Quand Heidegger dit « toute la philosophie occidentale est un commentaire marginal de Platon », il a saisi quelque chose de très très profond et de très vrai. Toute la philosophie occidentale est un commentaire marginal de Platon. Et si c'est vrai, le problème est pour nous le même que Aristote face à Platon. Est-ce que le point de vue de l'appréhension qui saisit la forme, alors mettez les formes en soi, ou le point de vue de l'acuité, ou les catégories, peu importe, si l'appréhension qui est l'opération première de ma vie intellectuelle saisit les formes, et je les saisis par les sens, ou je les saisis immédiatement comme les formes a priori, la question est de savoir si le jugement est capable de dépasser cette détermination ou si au contraire le jugement est entièrement enfermé dans ces catégories. Si le jugement est entièrement enfermé dans ces catégories et qu'il ne peut pas le dépasser, vous voyez bien qu'en réalité, il ne peut pas y avoir de philosophie première de l'être. Je saisis la forme, tout simplement. Si au contraire, mon intelligence, par le point de vue du jugement, est capable de dépasser l'appréhension et d'avoir un contact direct avec ce qui est, si le jugement, tout en impliquant l'appréhension, le jugement est capable de saisir immédiatement la réalité existante, en tant qu'une réalité qui existe, ou de me saisir moi-même comme une réalité existante en disant « je suis », si cela a une signification qui dépasse tout le point de vue des catégories, alors il y a possibilité de comprendre un nouveau champ de découverte qui sera le champ de la philosophie première. Qu'est-ce que c'est que l'être vu du point de vue de l'être? Donc ça, c'est capital à comprendre. Si on ne saisit pas cela, je crois qu'on ne saisit plus rien. Ce n'est pas la peine. Il faut saisir. Il y a des portes devant lesquelles il faut entrer. Vous savez ce que dit Parménide, hein? La porte de la justice, de la diké. Si on ne dépasse pas la porte de la diké, on reste avec le domaine des mortels qui reste dans le domaine des étangs, comme dirait Heidegger. On reste dans le domaine des étangs. On reste dans le domaine des réalités déterminées, limitées, qui sont autour de nous. On ne pénètre pas dans le domaine de l'être. Il y a quelque chose de très important. Alors, c'est exprimé mythologiquement par le point de vue de la diké et des portes de la diké, mais c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Il y a un dépassement que nous devons opérer par rapport à l'appréhension. Et alors, c'est très curieux que ce dépassement, on le fait spontanément au point de vue du sens commun. On le fait avec une difficulté énorme au plan philosophique. Ça, il faut le reconnaître. Que c'est très difficile pour nous, dans notre conditionnement actuel. C'est très difficile pour nous, dans notre conditionnement actuel, de le faire vraiment. Et de comprendre ce que ça veut dire. Pas simplement répéter. Mais de comprendre ce que ça veut dire. D'avoir vraiment cette expérience de ce jugement d'existence à travers toutes nos expériences et de comprendre ce que ça signifie, que comprendre qu'il y a là un vrai dépassement du jugement, donc le nous qui appréhende et qui juge, un véritable dépassement du jugement pour saisir ce qui est, donc la réalité, l'autre, la réalité existante, l'autre. Ce n'est plus nous-mêmes dans notre manière de penser, dans notre cogito. Vous voyez, alors toute la difficulté, c'est que le cogito, est-ce que c'est l'appréhension ou le jugement? Posez-vous la question. Est-ce que le cogito est appréhension ou le cogito est-il jugement? Regardez dans Descartes, vous verrez que le cogito est appréhension. Il n'est pas jugement. Et par le fait même que le cogito n'est pas appréhension et n'est pas jugement, et que vous commencez par le cogito et que le jugement dépend du cogito, on comprend très bien, le jugement d'existence est inhibé dans le point de vue de la forme. Bon, Réfléchissez sur ce problème-là, parce que c'est la porte de la justice qui nous fait entrer dans la métaphysique. Et si vous restez en face, alors invoquez les muses, invoquez les nymphes, invoquez les filles du soleil, pour qu'elles vous permettent un tout petit peu de dépasser le domaine des mortels à double tête. N'est-ce pas ? Et puis d'entrer dans un domaine qui soit un peu plus ensoleillé, un domaine qui soit un peu plus le domaine de la vérité et de la lumière. Alors à ce moment-là, on dépasse les portes, ça fait du bruit, les portes de bronze, n'est-ce pas, se s'ouvrent, et on entre dans le domaine différent, qui est ce domaine de la lumière, qui est le domaine de l'être. Mais alors vous comprenez très bien, faites attention, parce qu'on risque d'être aveuglé. N'est-ce pas ? On est dans les ténèbres, dans la caverne, on ne voit rien, puis tout d'un coup, la lumière. Alors à ce moment-là, faites attention, parce que vous risquez d'être tellement illuminé, de dire l'être, 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 et tout expliqué par l'être. Alors de dire, j'ai une intuition merveilleuse de l'être, et puis je ne dis plus que cela. Attention, notre mode intellectuel demeure toujours, même quand on passe les portes de la dikée. On reste des hommes avec une intelligence limitée et une intelligence qui doit progresser et donc qui doit continuer d'analyser. Et au fond, c'est ça la difficulté. J'ai une peine énorme de dépasser les catégories. Alors je dirais, je suis libéré des catégories. Eh bien non, on n'est jamais libéré des catégories. On n'est jamais libéré de notre conditionnement humain. Mais mon intelligence saisit autre chose. À travers la réalité et dans la réalité, et elle doit continuer d'analyser ce quelque chose qui est au-delà des catégories. Et continuer de l'analyser, c'est saisir les principes propres. Je ne peux pas analyser autrement. Je saisis les principes propres en essayant de comprendre ce qu'est cette réalité. Alors, c'est cette recherche que nous avons commencé à faire et que nous allons continuer de faire. Si j'interroge la réalité, ce qui est, du point de vue de l'être, si je l'interroge profondément, qu'est-ce qu'elle est ? Le ti-esti, qu'est-ce qu'elle est ? En interrogeant, on secoue la réalité qu'on veut connaître. Hein ? On la secoue de multiples manières pour essayer de saisir la possibilité de l'analyser et donc de saisir quelque chose de simple. Toutes les réalités que j'expérimente sont composées. Elles sont complexes. Et du fait même qu'elles sont complexes, elles ne sont pas lumineuses du tout. Même pas vous. Vous n'êtes pas lumineux du point de vue métaphysique. Hein. Du point de vue métaphysique, vous n'êtes pas lumineux du tout. Parce qu'en vous, l'être est caché, il est scellé, et je ne vois que l'aspect sensible. Et ne voyant que l'aspect sensible, je ne saisis pas ce qui est à la racine même de votre être. Saisir ce qui est à la racine de votre être, c'est saisir la source des déterminations. Et je dois prendre un procédé inductif pour le saisir. C'est un procédé qui n'est pas commode hein, à bien saisir, pour essayer de saisir ce qui est à la source de toutes les déterminations. L'ousia, c'est la source de toutes les déterminations. Et immédiatement, dès que je saisis l'ousia, je vois que l'ousia n'est pas la qualité. Elle n'est pas la quantité, elle n'est pas la relation. Je ne peux pas m'arrêter à cette analyse. Et c'est là où ça devient un peu plus difficile encore. Je ne peux pas m'arrêter à cette analyse. Je suis obligé d'aller plus loin. Mon interrogation du ti-esti, qu'est-ce que c'est que l'être, ne peut pas s'arrêter à l'ousia. D'une certaine manière, elle s'arrête à l'ousia, puisque l'ousia est un principe. Donc elle s'arrête à la substance, parce que la substance est une source, mais cependant elle ne s'arrête pas à cela. Pourquoi ? Alors ça c'est une grosse question, et il faut toujours se rappeler. Autrement je ne comprends pas pourquoi je poursuis mon analyse. Pourquoi je ne peux pas m'arrêter à cette division de l'être si importante, la substance et la qualité. Ce qui est. Pourquoi je ne m'arrête pas là ? On va dire, mais c'est une fois que j'ai saisi la substance, j'ai saisi un principe, j'ai saisi quelque chose de radical, je saisis quelque chose d'indivisible, et donc c'est suffisant. Je ne peux pas m'arrêter là. Pourquoi ? Parce que, justement, il y a une division dans l'ordre de l'être, comme toute analyse. S'il y a une division dans l'ordre de l'être, je ne saisis qu'un aspect de l'être. Je saisis l'aspect de la détermination. Alors, si l'être s'identifiait, si ce qui est était identique à la détermination, si ce qui est était identique à la forme, je m'arrêterai en saisissant l'ousia. Parce que je saisis la source de toutes les déterminations. Si je saisis la source de toutes les déterminations et que ce qui est identique à la détermination, je m'arrêterai. Je dirais, j'ai vraiment saisi le fond de l'être. Et le fond de l'être, c'est sa source. La source des déterminations. Je ne peux pas m'arrêter. Pourquoi ? Parce que justement, ce qui est ne se ramène pas uniquement aux déterminations. Et ceci, j'en ai l'expérience immédiate. Dès que j'expérimente le mouvement. Le mouvement existe. Or, le mouvement ne peut pas se ramener à la détermination. Le mouvement implique autre chose que la détermination. Puisque le mouvement implique un passage d'une détermination à une autre détermination, et il y a quelque chose qui demeure le sujet. Je suis en face de contraire et du sujet. Il y a donc quelque chose de distinct dans la réalité qui ne peut pas se ramener à la détermination. Du reste, si j'interroge ce qui est, si j'essaie de comprendre ce qui est, je vois que les interrogations que je pose par rapport à ce qui est sont diverses et ne se ramènent pas seulement... Écoutez, je vous en supplie, est-ce que vous venez ici pour faire de la métaphysique ou vous venez ici pour inspecter le public ? Je vous parle, vous deux, là. Si vous venez ici pour vous intéresser, venez ici, vous voyez beaucoup mieux le public. Là, vous le voyez de dos. Alors, je vois faire des remarques comme ça. Ah tiens, tu as vu une telle, tu as vu un tel, tu as vu un... C'est pas la métaphysique, ça. C'est de l'ordre de la description. Alors, si vous êtes ici en spectateur, ici, pas de spectateur. Vous voyez, je refuse ça. Parce qu'un cours, pour moi, c'est sérieux. Si pour vous, c'est pas sérieux, c'est pas la peine d'y assister. Un cours de métaphysique réclame toute notre attention si on veut coopérer avec le professeur. Or, je vous ai toujours dit qu'un cours doit être une coopération. Je n'ai pas du tout envie que vous pâtissiez. J'ai envie que vous coopériez. Et donc, coopérer, c'est devenir intelligent en essayant aussi d'aider le professeur à être plus intelligent. Parce qu'on coopère. Quand on coopère, on se porte mutuellement. Et alors, à ce moment-là, on peut avancer. On réfléchit dans un cours métaphysique. Un cours de philosophie. On est... Alors, si c'est uniquement spectateur, poids lourd, je les mets en dehors. Surtout quand il y a de la neige, ça risque de glisser beaucoup et de ne pas aller très bien. Alors, à ce moment-là, je n'ai pas envie de ces poids lourds. Je n'accepte que ceux qui coopèrent. Les autres, non, ils n'ont qu'à lire les bouquins. Les bouquins, c'est suffisant. Un cours apporte quelque chose de plus, c'est coopérer. Alors, il s'agit d'essayer de comprendre. Hein. Bon, alors, je dis, je ne peux pas ramener tout à la détermination parce que le point de vue de la détermination n'est pas adéquat à l'être. Je me pose d'autres questions. Il y a d'autres interrogations. En quoi est l'être ? Vous voyez, en quoi est l'être ? Ça pourrait être le sujet. Le point de vue du devenir, dès les deux déterminations, est le sujet. Alors, est-ce que je peux répondre à l'interrogation « En quoi est l'être ?» Nous avions déjà vu, je ne fais que reprendre, en quoi est l'être ? Non. Pas de réponse. Pourquoi ? Parce que quand je me pose la question « En quoi est une réalité ?», je suis en face d'une réalité dans son indétermination la plus fondamentale. Et une réalité dans son indétermination la plus fondamentale, c'est le sujet, c'est la matière. Alors il faudrait dire, après avoir découvert que l'être est premièrement source de toute détermination, dire que l'être est premièrement source d'indétermination serait contradictoire. l'être n'est pas premièrement source d'indétermination. Qu'il y ait dans l'être des éléments d'indétermination, c'est bien évident. Parce que justement, l'être, dans la substance, telle qu'elle se trouve réalisée dans notre monde physique, est une substance qui implique une composition. Si elle implique une composition, par le fait même, elle n'est pas parfaitement déterminée. Et donc, elle a des éléments matériels. Les éléments matériels sont présents dans les réalités. Les réalités qui existent impliquent ces éléments matériels. Mais ces éléments matériels ne sont pas l'être dans ce qu'il a de premier. Or, dans une analyse, c'est ce que nous cherchons. Les éléments secondaires, on les laisse tomber. On prend les éléments premiers. Or, la matière comme telle ne peut pas être un élément premier dans l'ordre de l'être. Je ne vais pas insister trop là-dessus. J'ai simplement dit, avant Noël, combien c'était important cette question. Il y avait deux grands philosophes, Averroès et Lénine, il faut les mettre toujours l'un à côté de l'autre, Averroès et Lénine qui disent que la matière est un principe premier de l'être. Si vous en trouvez d'autres, vous me le direz. C'est intéressant de les aligner, de les mettre en parallèle et d'essayer de comprendre comment ils aboutissent à cela. Bon, c'est intéressant de voir qu'Averroès et Lénine disent que la matière est un principe propre de l'être. Or, le principe propre de l'être, s'il est la source de toute détermination dans l'ousia, il évacue toutes les indéterminations. Les indéterminations qui existent dans la réalité ne sont pas être en premier lieu. C'est le devenir. Vous voyez, tout de suite, la distinction du devenir et de l'être. Et ça, c'est quand même très important. Que le devenir implique essentiellement la matière, oui. Mais que l'être implique essentiellement la matière, non. Alors ça, c'est une division, une distinction qui n'est pas commode non plus à faire, surtout pour nous. À partir de l'Hegeliani, c'est pas commode du tout de distinguer ce qui est et ce qui devient, ce qui est mu. Mais c'est une distinction. La philosophie grecque a mis très longtemps avant d'arriver à cette distinction. Faut bien le reconnaître, c'est pas une distinction qu'on fait spontanément, parce que on arrive très facilement à confondre les deux. Alors, il faut arriver à redécouvrir cette distinction, ce qui est vu du point de vue de l'être, et ce qui devient considéré comme une modalité de l'être. Ce qui devient est une modalité de l'être, mais ce n'est pas l'être. Alors, ce qui devient implique tout de suite détermination et indétermination. Les deux grands éléments qui constituent ce qui devient, c'est la détermination et l'indétermination, matière et forme. La distinction de la matière et de la forme est une distinction propre à ce qui devient, à ce qui est mu. La distinction de la matière et de la forme n'est pas une distinction propre de l'être. Ça, il faut le comprendre. C'est ce que Étienne Gilson n'a pas assez compris. Il n'y a pas que lui, hein. C'est très ancien. Mais il n'a pas vu avec assez netteté que la distinction de la matière et de la forme n'est pas une distinction propre de l'être. Il dit textuellement que la distinction de la matière et de la forme est la distinction de toute la philosophie d'Aristote. Non, c'est une distinction qui regarde le devenir, mais qui ne regarde pas l'être. Ce qui est au-delà du devenir, bien qu'il soit dans le devenir, mais il est au-delà du devenir, il est quelque chose de plus profond, et lorsque j'analyse ce qui est, je l'analyse en ousia, substance et qualité, et non pas matière et forme. Alors c'est ça qui serait très intéressant à voir, vous voyez. Quelle différence y a-t-il entre cette distinction substance et qualité et la distinction matière et forme? L'une est la distinction propre de ce qui devient, et l'autre est la division propre de ce qui est. Alors il faut les mettre en parallèle, il faut essayer de comprendre la différence qui existe entre les deux. Et alors à ce moment-là, vous comprenez mieux toute la distance qui existe entre ce qui est et ce qui devient. Mais il ne faut surtout pas les confondre, vous voyez. C'est toujours la très grosse difficulté que nous avons. Hein. Quand nous découvrons une distinction, quand nous réalisons une division, comme nous avons beaucoup de peine à la découvrir, quand on l'a découvert, on l'applique à tout. Ça, c'est le procédé, vous savez bien. On l'applique à tout. Alors, la distinction matière et forme est une distinction typiquement platonicienne. C'est la distinction propre de Platon. Je peux dire que tout le platonisme implique la distinction de la matière et de la forme. Cette distinction est reprise par Aristote d'une façon tout à fait différente, et pour Aristote, elle est dépassée par la distinction ousia-qualité. Donc, je ne peux pas appliquer à l'être une distinction qui est propre au devenir. Parce que le devenir et l'être n'ont pas la même structure. C'est ça qu'il faut saisir. La structure du devenir et la structure de l'être n'est pas la même. Et donc, quelque chose qui est propre à l'analyse de ce qui devient n'est pas propre à l'analyse de ce qui est. Ça, c'est très important de le saisir soi-même. Parce que si on ne le saisit pas, justement, c'est du reste là, on voit si quelqu'un est intelligent ou pas. Celui qui est intelligent applique la division là où elle joue. Celui qui répète l'applique là où elle ne joue pas. C'est le grand procédé à l'examen pour voir si quelqu'un a compris ou s'il répète. Alors on le voit tout de suite. On voit tout de suite si une division qu'on a pris, matière et forme, c'est très très beau, matière et forme, c'est l'illéformisme, on a répété ça sur tous les tons. Alors on a dit c'est ça qui est le caractère de la philosophie aristotélicienne. Non. Ça caractérise la philosophie platonicienne, la matière et la forme. C'est la grosse division. La distinction d'Aristote, c'est ousia et qualité. Ça, on ne l'a pas dit, on ne le dit jamais. Parce que justement, on ne l'a pas saisi. Alors, on ne le répète pas. On prend uniquement matière et forme au niveau du devenir. Alors, ça se répète tout le temps. Mais la division ousia et qualité, non. Parce qu'on ne l'a pas saisi que c'était ça la division première de l'être. Bon. Ceci permet de comprendre que l'interrogation en quoi est l'être, pas de réponse. Autrement dit, l'être est au-delà de cette interrogation en quoi. Ça, c'est aussi très curieux. Comment se fait-il que ces interrogations, cette interrogation en quoi, ne peut rien dire de l'être? Alors là, il faut comprendre que mon intelligence connaît en premier lieu des réalités complexe. Mon intelligence expérimente toujours des réalités en devenir, en mouvement. Et donc, les plis de mon intelligence interrogeante, le conditionnement de ma vie intellectuelle, se prend toujours de la réalité qui est en devenir. Puisque c'est la première réalité que je connais. Et donc la première structure de mon intelligence, si j'ose dire, mon intelligence interrogeante, se prend à partir des réalités qui sont en devenir. Dès que mon intelligence veut saisir ce qui est au-delà du devenir, mon intelligence doit faire son autocritique et comprendre que certains plis, certaines interrogations qui sont vraies pour les réalités en devenir ne peuvent plus rien dire de ce qui est. C'est difficile à saisir, ça, parce que c'est intéressant de voir comment l'intelligence peut faire son autocritique et qu'elle doit le faire tout le temps. Si elle veut être philosophique, elle doit faire tout le temps son autocritique. Elle doit comprendre qu'elle-même, en liaison avec les réalités qui sont en devenir, elle saisit tel ou tel aspect. Et que si elle veut saisir plus profondément la réalité, non plus sous le point de vue du devenir, mais sous le point de vue de l'être, alors à ce moment-là, elle doit changer. Elle change de registre. Et ces plis ne sont pas les mêmes, ces interrogations ne sont plus les mêmes. Il y en a qui demeurent, il y en a qui disparaissent. Bien, je crois que je peux dire ça, de cette interrogation, en quoi est la réalité et d'où vient la réalité. Alors là, c'est encore plus difficile. Quand je pose la question, d'où vient ce qui est ? Cette interrogation, elle est née en premier lieu face à une réalité en devenir. Toutes réalités qui sont en devenir, vous posez tout de suite la question d'où ça vient. C'est normal. Mais cette interrogation n'a plus de sens quand vous êtes en face de l'être. Alors là, ça, c'est pas commode à bien saisir. Il faut revenir à Parménide. Parménide le dit de façon admirable. Ce qui est ne peut provenir d'aucune autre réalité. Ce qui est en tant qu'il est. Parce que en tant qu'il est, il ne devient pas. Et si il provenait d'une autre source, il deviendrait. Donc, l'interrogation d'où vient ce qui est n'a pas de sens. Là, vous allez me dire, ah, ça, c'est détruit complètement le grand problème de la création. Eh bien, non. Le problème de la création ne provient pas de l'interrogation d'où ça vient. Contrairement à ce que disent tous les apologètes. Parce que ça renaît encore. Je lisais encore pendant les vacances un livre d'apologétique très astucieux en montrant comment la physique aboutissait nécessairement aujourd'hui à dire qu'on devait poser nécessairement une cause première. C'est impossible autrement. C'est intéressant du reste à discuter parce que c'est subtil, c'est pas bête. C'est posé comme le problème que la physique moderne va aboutir nécessairement à poser le problème de l'origine. L'origine de l'électron. L'origine, donc, de l'analyse poussée le plus loin possible au point de vue physique. Et alors, on doit poser le créateur. Eh bien, non. L'origine, la question de l'origine, reste dans l'ordre du devenir. Quand il s'agit de la création, je n'ai aucune expérience de la création. Et vous non plus. Vous n'avez aucune expérience de la création. Je sais très bien que certains philosophes ont cette nostalgie d'assister à la création. Mais alors, c'est en tant que chrétien, vous voyez, c'est pas en tant que philosophe. Alors, il voudrait être à l'origine et saisir l'origine. C'est le privilège du chrétien, c'est le privilège de la foi. La foi me fait adhérer immédiatement au mystère de la création. Mais le philosophe, il ne sait pas ce que ça veut dire. Parler de la création à un philosophe, il ne sait pas. Parce qu'il regarde l'expérience. Ça ne veut pas dire que la création échappe complètement au problème philosophique. Mais le problème de la création ne peut se poser au plan philosophique que lorsque le philosophe a découvert l'existence d'un être premier, au-delà de tous les êtres qui sont dans le devenir. Quand le philosophe a découvert l'existence d'un être premier que les traditions religieuses appellent Dieu, alors il peut se poser la question, mais ce n'est pas direct, vous voyez. Donc je crois que je suis obligé de considérer que l'interrogation d'où vient l'être n'a pas de sens au niveau métaphysique. Alors, dernière question, en vue de quoi l'être ? C'est la question de la finalité. Puis-je découvrir la fin de l'être ? Ça, c'est une très grosse question. Puisse découvrir ce qu'est l'être parfait, l'être dans sa perfection. Puis-je me poser la question, est-ce que ça a une signification ? C'est la première chose que je dois me poser. Parce que l'interrogation en quoi est l'être, pas de signification. L'interrogation d'où vient l'être, pas de signification. Alors je me pose la question. Quand je me pose, du moins je me pose la question, lorsque l'interrogation à l'égard de « en vue de quoi est l'être », c'est-à-dire quelle est la fin de l'être, est-ce que ça a une signification? Alors, la première, ça c'est au point de vue critique, il faut d'abord s'arrêter un instant là-dessus. Est-ce que ça a une signification? Alors comprenons bien que la finalité, pour nous, nous la saisissons en premier lieu dans l'ordre artistique. Qu'est-ce qui finalise le travail? C'est l'œuvre. Normalement, hein, si vous grattez du papier et qu'au bout de quelques instants, vous voyez que votre plume ne marche pas et que rien ne se gratte, vous arrêtez. Vous n'allez pas continuer indéfiniment à dire ça ne va rien. Je gratte, il n'y a aucun résultat, ça n'a aucune espèce d'importance, je gratte. Normalement, quand vous travaillez, c'est pour un résultat. Normalement. Travailler sans aucun résultat, ou c'est un fou. Parce qu'on a tous vu cette image dans les asiles, des choses invraisemblables. Quelqu'un qui ramassait un caillou, j'ai vu ça, c'est pour ça que c'est resté dans ma mémoire. Quelqu'un qui ramassait un caillou, qu'il mettait sur la table, puis il s'arrête un instant, il reprend le caillou, il le remet sur la table. Puis il n'y a pas de raison de s'arrêter, ça. Et en effet, ça ne s'arrête pas. Il n'y a pas de résultat. Ça peut être un jeu, si vous voulez, l'immanence du jeu. Mais il n'y a pas de résultat. Alors, ça peut durer indéfiniment. Est-ce que c'est un travail? Oui, porter un caillou sur la table, le reporter en l'autre. Ce que me disait quelqu'un, c'était un vieil étudiant que je connais, allemand, et qui me dit, j'aime beaucoup de regarder les autoroutes et d'inspecter. Je vois qu'on transporte tel aliment de tel endroit. Il dit oui, donc il doit y avoir une source là. Mais je reste là un certain temps, je vois que dans un sens inverse, il y a la même chose. Alors je dis, mais qu'est-ce que ça se passe? Ce monde est complètement fou, parce qu'on travaille pour rien. Quoi. Si on était un peu intelligent, on dirait quoi. Comment ça se fait? On transporte des meubles d'un endroit à un autre meuble. Évidemment, il y a des styles différents, vous allez me dire. Il y a des spécialités différentes, c'est très vrai. Mais on transporte d'un autre endroit et on fait la même chose. C'est très vrai. Si vous restez une heure sur une autoroute et que vous inspectez, vous verrez ce petit manège qui se fait comme ça. Dans les deux. On dit, c'est quand même curieux. Notre monde est drôlement bâti. Quand c'est un fou qui fait ça dans un asile, vous comprenez tout de suite. Vous dites, il est fou. Mais quand c'est sur l'autoroute, vous ne dites pas ils sont fous. Non, non, ils sont très, très, très conscients. Ils gagnent leur argent et leur vie comme ça. Et pourtant, il y a quelque chose comme ça qui se fait. Le travail est en vue d'une fin. C'est en vue d'une fin. Je crois que ça, on peut le dire. En vue d'une œuvre, en vue d'un résultat. Je travaille pour un résultat. Bon. C'est la première signification que vous avez de la fin. C'est très important ce que je vous dis là, parce que si nous ne faisons pas grande attention, nous allons transposer, comme toujours, la première expérience sur tout le reste. Mon premier sens de la finalité, c'est le résultat. Ce que les scolastiques appelaient d'une façon assez curieuse, parce que quand il y a des langages de scolastique assez curieux, ils appelaient ça la finis effectus. Normalement, l'effet, c'est un résultat, c'est pas une fin. Alors ils disent finis effectus pour qu'on nous comprenions bien que l'œuvre, c'est un résultat, c'est un effet et c'est en même temps une fin. C'est ce qui finalise mon travail. Je travaille pour un résultat. Je fais de la cuisine pour qu'il y ait un plat qui soit mangeable. Donc il y a un résultat. Finis effectus, l'œuvre. Bon, quand vous réfléchissez sur cette première expérience que vous avez de la finalité, vous voyez que la fin est extérieure à celui qui travaille. C'est l'œuvre extérieure à celui qui travaille. Et alors, vous avez instinctivement, si vous ne faites pas grande attention, la conception de la fin comme ce qui est extérieur. C'est ce que vous voyez dans Bergson. C'est dit admirablement dans Bergson. Bergson s'est beaucoup posé le problème de la finalité. Et alors, c'est ça la grosse difficulté. J'ai le point de départ. La fin au point de départ, c'est quelque chose d'extérieur. Si c'est quelque chose d'extérieur, je me pose la question, quelle est la fin de l'être? Ça ne peut être que l'être. Alors, si c'est quelque chose d'extérieur à l'être, c'est donc le non-être. C'est extérieur à l'être. Qu'est-ce qui est extérieur à l'être? Il n'y a que le non-être. Le non-être seul est extérieur à l'être. Donc la fin de l'être, ça ne peut être que du non-être. Voyez le petit schème. Le petit schème qui provient de la première découverte que j'ai de la finalité. La fin, c'est l'œuvre, c'est quelque chose d'extérieur. Si je ne suis pas très attentif, c'est-à-dire si je ne fais pas ma propre critique, et que immédiatement après cette première expérience, je pense à une seconde expérience de la finalité. Quelle est la seconde expérience de la finalité? C'est le problème de l'amour. Le bien suscite en moi un amour. Le bien, c'est ce que tous désirent. Alors là, j'ai une expérience nouvelle de la finalité parce que je suis attiré par un bien. Être attiré par un bien, c'est être finalisé. On dirait aujourd'hui être motivé. C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est pour que vous compreniez qu'il y a quand même quelque chose qui reste là de la vieille finalité. On est motivé. Il faut motiver les gens. Il faut les interpeller. C'est-à-dire tout simplement qu'il soit attiré par le bien. Attiré par le bien suscite en moi un amour. Quand je suis attiré par le bien, suscite en moi un amour. Quand ça suscite en moi un amour, je suis finalisé par ce bien. Alors vous voyez là, c'est tout à fait différent. C'est ce qui au point de départ était extérieur qui devient intérieur. Donc être finalisé, c'est intériorisé. Être finalisé, c'est extériorisé. Être finalisé, c'est intériorisé. C'est quand même très curieux. Et je fais appel là à deux expériences très simples que nous pouvons tous avoir. L'œuvre que je réalise, je m'extériorise dans l'œuvre. C'est bien évident. Je me manifeste dans l'œuvre. Quand je suis attiré par le bien, je m'intériorise en étant finalisé, puisque j'aime. Et ma grande intériorité, c'est l'amour. Donc je m'intériorise en aimant. En me laissant attirer par le bien, je m'intériorise. Donc je me finalise en m'intériorisant. Être finalisé, c'est donc s'intérioriser. Être finalisé, c'est s'extérioriser. Vous avez là deux aspects tout à fait différents de ce que c'est que la finalité. Ce qui montre que la finalité est au-dessus de l'intériorisation et de l'extériorisation. Ce qui vous montre bien que lorsque vous jugez uniquement au point de vue psychologique, en regardant le point de vue de celui qui s'extériorise et de celui qui est toujours intériorisé, vous ne saisissez pas ce que c'est que la finalité, vous ne saisissez pas ce que c'est que l'amour. Vous saisissez les conséquences de l'amour, mais vous ne saisissez pas ce que c'est que l'amour. Pour certains, aimer, c'est chanter. Pour certains, aimer, c'est de garder le silence. Deux manières différentes d'aimer. Très vrai, c'est Dubellé qui dit ça. Quand j'aime, je chante. Dubellé, il aime en chantant. Alors, tous ceux qui ne chantent pas n'aiment pas. Vous voyez, c'est la conséquence, ce serait très grave. Bon, parce que pour lui, chanter, c'est aimer. Quand j'aime, je chante. Un autre dirait, moi, quand j'aime, je ne peux plus parler. Et a fortiori, je ne peux plus chanter. Je suis tellement intériorisé que j'entre dans le silence. Alors, l'amour est source. Il est source du silence, source de la parole, source du chant. L'amour n'est donc ni le chant, ni la parole. Je veux dire, l'amour n'est ni le chant, ni le silence. L'amour est au-delà. Il est ni un ni l'autre. C'est très important, ça, vous voyez, quand on veut saisir quelque chose. C'est très important de saisir deux aspects tout à fait différents qui sont les conséquences. Je dirais, la finalité s'exprime par le point de vue de l'extériorité par l'œuvre, la finalité s'exprime par une intériorisation. C'est très vrai. Mais qu'est-ce que c'est que la finalité ? C'est au-delà de l'aspect extérieur, de l'aspect intérieur. Il faut donc aller plus loin que ces deux manières. Alors là, je commence à comprendre que peut-être c'est en regardant l'être que je vais saisir ce que c'est que la finalité. Parce que quand je regarde le bien et quand je regarde l'œuvre, je n'ai que des modalités de la finalité. Et donc, je ne la saisis pas pleinement. Et je risque de systématiser un aspect particulier. Je m'arrête à un mode particulier de la finalité sans saisir vraiment ce que c'est que la finalité. Et donc, je suis obligé d'aller plus loin. Et alors, c'est là où la signification, qu'est-ce que c'est que la fin de l'être, en vue de quoi est l'être, prend toute sa signification.